Hier avait lieu sur l'université une opération assez rare, qui est la fermeture de l'université en pleine année universitaire. Et ceci pour protester contre... Alors, bien sûr, comme chaque année, on peut dénoncer dans cette université le fait qu'elle soit moins bien dotée que d'autres par rapport au nombre d'étudiants, bien sûr. Mais aussi, l'année qui est annoncée en termes budgétaires paraissait insurmontable pour les responsables de cette université. Donc, ce n'est pas exactement le sujet de l'interview que j'ai faite aujourd'hui du président au lendemain de cette manifestation de mécontentement, sinon de colère. Je vous propose une interview aujourd'hui réalisée plutôt dans la prospective de ce que peut apporter une université dans son environnement et notamment dans toutes ses dimensions. Voilà, Régis Bordet, donc président de l'Université de Lille.
Voilà, bien, bonjour monsieur Bordet.
Bonjour.
Donc, vous êtes le président d'une grande université qui regroupe Lille 1, Lille 2, Lille 3, voire même des écoles maintenant. Hein, et donc, une force de frappe, on va dire, notamment pour la région, pour l'Europe aussi un peu.
Oui, puisque nous sommes dans une alliance européenne et puis que nous avons aussi monté un réseau transfrontalier avec deux universités belges, Gand et Leuven, et puis l'université du Kent. Donc nous inscrivons vraiment dans une démarche européenne. Mais comme vous l'avez dit, effectivement, l'université de Lille est aujourd'hui, avec Aix-Marseille, une des deux plus grandes universités françaises, avec 80 000 étudiantes et étudiants, 64 unités de recherche. Nous faisons partie de l'initiative d'excellence française, donc effectivement, nous sommes un moteur pour la métropole européenne de Lille, mais plus globalement pour la région Hauts-de-France. Je fais le lien avec l'actualité d'hier. C'est pour ça que nous nous sommes mobilisés pour défendre notre université, son budget, pour pouvoir continuer à exercer cette mission.
Alors, cette université de Lille, comment on pourrait la définir ? Polyvalente, généraliste, ou avec des spécificités qui lui permettent d'entrer en lien avec d'autres universités qui seraient assez proches ?
Alors, bien sûr, c'est la difficulté d'une grande université associant l'ensemble des disciplines pour identifier une seule thématique qui serait le fer de lance de l'université de Lille. Je pense que l'entièreté des collègues ne s'y retrouverait pas. Et c'est un petit peu la démarche qui a été entreprise après la fusion et dans le cadre de l'initiative d'excellence, c'est de trouver finalement un thème qui nous différencie, mais qui en même temps entraîne une grande partie de la communauté. Et c'est là où notre approche globale de la question des transitions, rappelons-nous, c'était les gilets jaunes liés à finalement une taxe à visée écologique, donc un problème écologique qui se double d'un problème social. Nous nous sommes dit, comme nous avons toutes les disciplines, nous pouvons réfléchir à une approche interdisciplinaire des questions de transition. Et ça marche pas mal, puisque dans le dernier classement THE interdisciplinaire, eh bien, nous sommes 107e au niveau mondial et 2e de France sur l'interdisciplinarité. Donc c'est conjuguer finalement une thématique un peu particulière, mais qui entraîne l'ensemble des disciplines. C'est pas facile à faire. Et puis derrière, bien sûr, on travaille sur tel ou tel type de transition numérique, sociale. Par exemple, on a fait un super projet autour des inégalités qui va bientôt paraître sous forme de livre et qui a mobilisé vraiment, bien sûr, la science politique, mais aussi les juristes, mais aussi les sociologues, les économistes, les collectivités territoriales ont été entraînées. Et donc, c'est comme ça, on s'est fixé 7 objectifs de développement durable, dont les inégalités. Et voilà comment on donne une petite coloration à notre université, en lien aussi avec les enjeux de notre territoire, les Hauts-de-France, la métropole européenne de Lille. Eh bien, on sait bien que c'est aussi un territoire encore en renaissance, mais encore en difficulté, marqué par son passé de deux guerres et d'une guerre économique.
Alors justement, cette relation au territoire, on peut parler bien sûr des Hauts-de-France, elle se fait aussi au travers d'une vision de cette région à long terme. Comment l'université peut travailler sur le long terme, en même temps aussi avec son quotidien de la recherche permanente, on va dire, hein, mais aussi tous ces labos qui travaillent sur des objets spécifiques au service de la nation et aussi de la région.
Notre région est en plein renouveau et on voit bien la réindustrialisation qui se fait jour. Et j'ai proposé un petit concept qui est d'universitariser la réindustrialisation, à la fois par les formations innovantes, par la recherche, parce que c'est bien d'avoir des grandes industries, mais il faut avoir aussi tout le réseau des PME autour, les start-up, et puis en injectant aussi notre esprit critique d'universitaire, parce que c'est bien d'avoir des grandes industries, mais encore faut-il comprendre leur impact sur le territoire. Je pense que personne n'a envie de se retrouver avec des sites qui ont été pollués par le passé, etc. Et donc de prendre en compte la durabilité, la soutenabilité, le développement durable aussi. Et ça, c'est notre rôle d'universitaire. La question de l'eau versus ces grandes industries, etc. Et c'est là où on peut mobiliser, en fait, des collègues qui, individuellement, comme vous l'avez dit, travaillent sur tel ou tel sujet. Et en disant, là, on a une vraie question et venez vous mobiliser tous ensemble sur pour répondre à cette question. C'est là où on finance à travers nos crédits d'initiative d'excellence ce qu'on appelle des cross-disciplinary projects, des projets un peu interdisciplinaires qui prennent des grandes questions et qui les traitent avec des regards critiques différents.
Voilà, donc l'université et ses personnels hein, captent sans doute l'air du temps, le digère et le transforme en proposition d'action et même en proposition concrète de réaliser des choses sur le terrain.
Ah oui, notre objectif, c'est de servir la société. Et mardi prochain, le 10 décembre, nous accueillons à Lille la première journée d'études d'un groupement que nous avons lancé avec 5 autres universités qui s'appelle l'Initiative, qui regroupe l'université de Nantes, l'université de Pau, Pays de l'Adour, de Clermont-Ferrand, de Cergy et puis l'université Gustave Eiffel. Nous avons tous en commun d'avoir eu un ICIT, donc qui était très en lien avec le territoire. Et en discutant avec les collègues, ça a d'abord été finalement une espèce de bande qui se sont retrouvés parce qu'on avait tous un label. Et puis on s'est bien entendu, ça devient une bande d'amis. On mange tous les mois ensemble, une fois par mois. Et ce qui nous a frappé, c'est que tous nos établissements s'étaient transformés. À Lille, on a connu beaucoup de transformations institutionnelles, les autres aussi, mais que nous nous sommes transformés pour mieux servir la société. Et ce qui nous a vraiment, et ce qui nous réunit aujourd'hui, et c'est comme ça qu'on a bâti le programme de mardi prochain, c'est de montrer, de donner une image positive des universités. On le voit bien, la forme de maltraitance budgétaire traduit que notre pays, ne reconnaît pas ces universités comme partout ailleurs dans le monde, les universités sont reconnues. Moi, c'est ce qui me frappe aujourd'hui comme président quand je compare ce qui se passe dans plein de pays, tout simplement en traversant la frontière. Je suis souvent invité à la rentrée solennelle de la KU Leuven. On défile en toge dans les rues et la population nous applaudit. En France, j'attends le jour où on pourra le faire. Et donc, je pense qu'il n'y a pratiquement aucune université française qui fait une rentrée solennelle comme ça, en déambulant dans les rues et en étant applaudi par sa population. Parce que, globalement, on ne connaît pas l'université, où on en voit toujours que soit les problèmes financiers, les problèmes de blocage, etc. Mais nous sommes des acteurs essentiels de la vie de la société. Retirer l'université, eh bien, il n'y a plus de formation, il n'y a plus de recherche, il n'y a plus de création de d'innovation, d'entreprises nouvelles. Il n'y a plus d'éclairage des citoyennes et des citoyens avant le vote, etc. C'est ça que, hier, j'ai voulu faire en proposant au comité de direction une université qui ferme ses portes en pleine semaine. Eh bien, ça s'est vu. Et ce qu'on veut montrer avec l'initiative, c'est vraiment que nos universités sont au cœur de la vie sociale, de la vie économique, de la vie politique, de la vie culturelle, de la vie sportive. Bref, que nous irriguons la vie de nos sociétés et de nos concitoyens et de nos concitoyennes. Et que s'il n'y a plus d'université, eh bien, un pays s'appauvrit. C'est vraiment... mais en montrant, non pas de manière larmoyante, moi je ne suis pas là pour faire l'aumône ou tendre une sébille, mais pour montrer tout ce que nous faisons et vraiment tout ce que nous faisons de positif pour, vraiment, je le redis, la vie sociale.
Alors j'étais là au démarrage de l'idée de ICIT. Est-ce qu'on peut revenir sur cette période, en quoi elle nous entraîne?
Déjà, l'État français ne considérait pas que nous allions réussir. Alors c'est vrai qu'on n'avait pas, au début de ce processus qui est né en 2010, de labelliser dans le cadre de l'initiative d'excellence quelques sites français. C'est vrai qu'au début, on n'a pas été, il faut le dire, très bon dans notre stratégie, etc. Mais progressivement, on a senti que tout le monde s'y mettait. Et bon, certes, on n'a pas eu l'IDEX, mais on a eu l'ICIT. Et aujourd'hui, je veux dire, faire une distinction entre Nice-Côte d'Azur et Lille, alors que nous avons le même budget d'initiative d'excellence, on ne peut pas faire beaucoup de différence. Donc aujourd'hui, il y a 17 universités qui sont dans l'initiative d'excellence et qui, à travers, se sont transformées profondément. Alors on peut être pour ou on peut être contre. Moi, avec le recul, puisque j'ai aussi, à partir de 2013, participé au troisième processus qui nous a amené à la labellisation en 2017, si nous n'avions pas fusionné, si nous n'avions pas concouru et obtenu cette confirmation qu'on a obtenue en mars 2022, et ça sera pour moi un élément très marquant de ma carrière personnelle, d'être allé comme président défendre la confirmation de l'initiative d'excellence, où est-ce que nous en serions dans la situation telle qu'elle est aujourd'hui au plan national, au plan budgétaire? L'île 1, l'île 2, l'île 3 auraient bien des difficultés aujourd'hui à défendre leur bout de gras. Quand, en revanche, l'université de Lille ferme ses portes en pleine semaine, on fait un peu le buzz au plan médiatique. Et on est respecté parce que on a montré que nous étions en capacité de nous transformer, d'obtenir un label d'excellence devant un jury international. Et depuis, nous avons obtenu bien d'autres projets. Et ça montre aussi que nous sommes une grande université qui a de l'ambition. Et donc, on ne peut pas nous renvoyer, comme c'était le cas, on l'a entendu parfois, comme vous le disiez, dans ces années où on était considéré comme n'étant pas capable de jouer dans la cour des grands.
Alors, c'est vrai que la dimension internationale de l'université, avec tous ses échanges, avec ses homologues dans le monde entier, on peut dire qu'elle est dans une perspective aussi de concurrence.
Qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, l'enseignement supérieur et la recherche est un élément concurrentiel au plan international. Alors on peut regretter que ça soit concurrentiel, mais c'est un état de fait. On est dans un monde globalisé et d'une certaine manière, les autres pays investissent dans leur université parce qu'ils savent que c'est un élément déterminant dans la compétition notamment économique, international, qui fait rage. Il suffit de lire l'actualité, de voir les aspects géopolitiques. Et donc, nous sommes dans cette concurrence. Quand vous voyez que maintenant, un certain nombre de jeunes françaises et français, plutôt que d'aller dans leur université française, voire même dans ce qu'on appelle les grandes écoles, décident d'aller à Londres ou aux États-Unis ou en Allemagne étudier après le bac, il faut qu'on s'en inquiète, parce que c'est de la matière grise qui fuit. On parle souvent de fuite des cerveaux. Là, c'est la fuite des jeunes cerveaux. Et ça n'est pas bon pour un pays. Et au contraire, si nous avions une image, et si finalement le pays renvoyait une image positive de ses universités, pourquoi les jeunes iraient ailleurs pour faire leurs études ? Non, ils resteraient dans leurs universités françaises. Bon, fort heureusement, on en a encore beaucoup qui restent. Mais il faut être attentif à ça, parce que nous sommes dans un monde globalisé, que les jeunes sont moins sédentaires, moins attachés peut-être à l'endroit où ils sont nés. Ça me rappelle une chanson de Georges Brassens. Sont moins attachés et sont beaucoup plus volatiles, parce que les réseaux sociaux, etc. Enfin, on a face à nous des jeunes qui ne sont plus ceux que nous étions il y a 30 ou 40 ans.
Alors justement, ces jeunes, leur perspective peut-être les amène à penser que dans d'autres pays, ils auront plus facilement un emploi, mieux payé, etc. Il n'y a pas que l'aspect formation. Ils prennent pied quelque part pour un avenir professionnel.
Bon, là aussi, il faut tordre le cou au fait que les universités ne seraient pas des vecteurs d'insertion professionnelle. Nous sommes là, et c'est consubstantiel à la formation, bien pour former des jeunes qui vont ensuite s'insérer dans la société, et notamment s'insérer professionnellement. Enfin, je veux dire, c'est le but de l'université. On y rentre, on en sort pour exercer ensuite un métier, une profession. Et c'est la force et la grandeur de l'université, c'est de ne pas faire d'adéquationnisme. Nous ne formons pas personnes à n'exercer qu'un métier très ponctuel. Alors bien sûr, on forme des médecins, etc., mais des avocats, mais des professions un peu réglementées. Mais globalement, même à ces métiers particuliers, on leur donne l'esprit critique, la capacité à s'adapter, etc., voire à changer de métier. Et donc, on ne répond pas, parce qu'on a souvent la critique, on confond l'objectif d'insertion professionnelle avec le fait de répondre de manière très particulière aux besoins d'une entreprise. C'est totalement différent. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand on discute avec les entreprises, etc., veulent plus des personnes qui sont formées de manière très ponctuelle, etc. Ils veulent des têtes bien faites qui sont capables de raisonner. C'est là où là aussi il y a des discussions sur l'approche par compétence, c'est où l'approche par projet, c'est cette capacité à intégrer des connaissances, à les mettre en application, à avoir l'esprit critique pour faire progresser l'endroit où on travaille, que ce soit l'université, une entreprise ou une collectivité territoriale ou une association. C'est des jeunes qui arrivent avec un savoir-faire, une tête pleine d'idées, créative, des compétences, des connaissances, et qui viennent impulser une nouvelle sève, une nouvelle ardeur là, à l'endroit où ils travaillent. Et ça, c'est notre satisfaction.
Voilà, donc avoir des bagages intellectuels et aussi une pensée possible grâce à un raisonnement, un enrichissement culturel, l'université a des rôles multiples, au-delà d'une école bien particulière, commerciale, etc. Il y a un enjeu de polyvalence, de maîtrise aussi des objets qu'on fabrique, enfin quand je dis des objets au sens large.
Oui, oui, tout à fait. Et c'est aussi pour ça que en dehors du strict aspect de formation, l'université offre un programme culturel très développé. Depuis ma prise de fonction, on l'a annualisé. C'est rythmé par des conférences, c'est thématisé pour aussi donner, sur un thème particulier, donner à voir à la fois des connaissances à travers une conférence, une manière de progresser intellectuellement, mais aussi de pouvoir aborder le thème à travers une pièce de théâtre, à travers un concert, à travers un film, etc. Et aussi pour ouvrir l'esprit des jeunes qui nous font confiance en venant à l'université de Lille. C'est un tout. Et puis il y a aussi le sport. Des esprits bien faits, le sport santé, pour que on ait des jeunes qui soient pleinement matures et qui puissent avoir une vie riche, pas riche financièrement peut-être, mais riche intellectuellement et épanouissante. En fait, c'est ça notre rôle, c'est d'épanouir toute une classe d'âge.
Alors cette classe d'âge, elle a à se confronter très rapidement à des enjeux de société, à des problèmes très complexes. Bon courage pour elle. Dans la région, il y a ce qu'on appelle le projet Rêve 3. Est-ce que vous êtes un peu en phase avec ça ?
Parfaitement. Quand on a, en 2018, vu la question de l'approche globale des transitions comme un peu identité de l'université, c'était parfaitement en phase avec le projet REF 3, qui s'appelait initialement Troisième Révolution Industrielle, mais qui était la prise en compte de la durabilité dans tout ce que nous faisions. Et il y a des liens, et ça n'est pas pour rien d'ailleurs que le président de la Fondation de l'Université de Lille est aussi celui qui, au Conseil Régional, porte le projet REF 3. On l'a voulu ainsi pour montrer les liens forts entre ce projet régional et le projet de l'Université de Lille.
Voilà, donc de la réflexion, du débat, du dialogue, c'est sans doute ce qui fait le secret d'une grande université.
Oui, tout à fait, et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Moi-même, j'ai une forme de frustration en n'étant pas en capacité de voir tout ce qui se passe dans l'université, mais mon rôle, c'est d'essayer de la défendre au niveau régional et national, de trouver les moyens pour que la richesse des personnels et des étudiantes et des étudiants puisse s'exprimer au quotidien, dans leurs pratiques, dans leurs projets. Et je pense que tout de même, au-delà des vicissitudes gouvernementales, etc., on a quand même créé un bel objet qui, aujourd'hui, est en plein développement. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois.
Bien, merci et bonne journée, Monsieur Bordet.
Merci beaucoup à vous pour votre invitation sur Radio Campus. Vous savez que nous soutenons cette radio qui nous a fait aussi le plaisir et l'amitié de nous soutenir hier tout au long de la journée pour la mobilisation que nous avions lancée dans cette journée d'action du 3 décembre.